Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Ioan Stanomir, professeur de sciences politiques à l'Université de Bucarest et spécialiste en droit constitutionnel. Nous l'avions invité à cette même émission il y a à peu près 2 ans. Et l'heure était donc venue de discuter à nouveau avec lui en ces temps instables, tant au niveau national qu'international. Ioan Stanomir, bonsoir.
Merci pour votre invitation.
C'est avec grand plaisir de vous retrouver ici, au micro du soir. Alors, première question qui concerne la scène politique roumaine. Est-ce que vous êtes inquiet quant à la stabilité politique relative que nous avons aujourd'hui, nécessaire à plusieurs égards, notamment économique? Et qui, au sein de la coalition au pouvoir, aurait intérêt à ce que cette coalition se termine? Mais d'abord, première question, quelle est votre intuition?
D'abord, la stabilité. Bien sûr, la stabilité est très nécessaire. Mais je crois que la stabilité est importante comme point de départ. La stabilité doit assurer la bonne gouvernance. Un gouvernement médiocre mais stable, ce n'est pas notre désir. Le mien, ce n'est pas le cas. Donc, je crois que c'est le plus grand danger pour la Roumanie. C'est d'abord ces deux dangers. D'abord, l'instabilité et peut-être plus important que ça, la médiocrité. Car l'instabilité couplée avec la médiocrité crée une situation dans la société qui fait la bonne gouvernance impossible. Et le manque de confiance dans l'État est éprouvé quand l'État roumain était un peu forcé par les événements de reconsidérer le deuxième tour des élections présidentielles. C'était un choc pour nous tous, car annuler les élections présidentielles, c'est inouï, et c'est une forme d'affaiblir la démocratie. Même si nous n'approuvons pas de cette perspective, la démocratie, c'est des élections surtout. Et annuler des élections, ça représente un précédent qu'il faut gérer avec beaucoup d'attention.
Mais si je me souviens bien, vous étiez d'accord sur la décision de la Cour constitutionnelle.
Je suis un défenseur de la démocratie militante. Mais pour défendre la démocratie, il doit y en avoir une. Mm-hmm. C'est comme ça. Mm-hmm. Pour faire les gens avoir confiance dans la démocratie doit marcher. C'est la question dans beaucoup de pays européens. Une démocratie faible n'a pas de défenseurs.
Mm-hmm. Mais sur cette annulation, on ne va pas revenir sur
mais
ce qui s'est passé.
Je crois que dans ce moment-là, il y avait une justification, mais ce qui manque, ce qui manque toujours, c'est une explication compréhensive. Mmh. Et je crois que dans l'absence d'une explication compréhensive, ça reste beaucoup de terrain pour la théorie des conspirations. Et ça, c'est surtout la raison pour laquelle un homme comme Călin Georgescu est très populaire aujourd'hui même.
Mmh. Mais pour revenir sur cette coalition,
oui.
Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans les mois qui viennent? Elle va tenir?
Ça dépend. Il y a peu d'alternatives à cette coalition. Et les membres de cette coalition sont issus d'une forme de ménage très instable. Le garant de cette coalition a été le président de la République. Le président de la République n'est pas très fort politiquement, car c'est un indépendant. Et vous connaissez très bien le camp français, même si le président français a un parti, même un très petit parti maintenant, mais il y a un parti. Mais ici, c'est un président sans parti. Et un président sans parti, c'est une surprise pour nous tous. Et je crois que c'est une leçon pour l'avenir. On doit en avoir un président issu d'un parti politique. Car si on est lié à un parti politique, on connaît les gens et on a une forme de culture qui nous donne la possibilité de vivre ensemble avec les politiques. Mmh. La vie politique sans les partis politiques, c'est impossible. Et une démocratie sans des partis politiques, c'est impossible. Mais je crois que la raison la plus importante de notre faiblesse démocratique, c'est la nature corrompue des partis politiques. Et l'incapacité des partis politiques de représenter la nation et de faire la nation se sentir représentée par les partis politiques. C'est une relation très compliquée entre les partis politiques, la démocratie et la nation.
Mmh. On va revenir sur le rôle du président en Roumanie. Précisément sur ces partis politiques, à ce même micro du soir, d'autres collègues de la faculté, de vos collègues de la faculté des sciences politiques me disaient que il était toujours impossible d'avoir un véritable parti social-démocrate en Roumanie. Comment vous l'expliquez ?
Comme vous savez, je ne suis pas un homme de la gauche. Je suis plutôt libéral-conservateur, donc pour moi, la plus grande question, c'est une autre. Pourquoi nous n'avons pas un parti populaire, vraiment populaire en Roumanie? Et pourquoi la droite traditionnelle n'est pas représentée? Et pourquoi la droite traditionnelle a été marginalisée? Et pourquoi la droite radicale l'a remplacée? Je crois que c'est la même question pour la gauche modérée et la gauche radicale. Si on examine le cas français, on voit comment la gauche radicale est en train de faire dérailler le chemin démocratique. Donc, quand les radicaux sont dans une situation d'influencer la vie politique, les modérés n'ont pas aucune chance. Donc, je crois que c'est une question très compliquée. Pour la gauche modérée, c'est une question liée à notre tradition politique. Le Parti social-démocrate, c'est l'héritier du Parti communiste. Et les gens de gauche en Roumanie, qui se déclarent de gauche, sont plutôt des gens d'extrême gauche. Il faut faire attention. Des gens plus proches à Mélenchon ou à la France insoumise. Pas au Léon Blum.
C'est une minorité.
Une minorité, mais une minorité très active, surtout sur les réseaux sociaux. Mais en ce qui concerne la droite classique roumaine, nous avons une situation dans laquelle le Parti national libéral n'est pas un parti libéral et n'est pas un parti populaire non plus. Donc, pour beaucoup de pays européens, la solution aurait dû être une sorte de synthèse entre le libéralisme classique, la démocratie chrétienne et le conservatisme. Ce genre de synthèse manque et il manque parce que les intellectuels ont été chassés de la vie politique. Et les politiques roumains ont considéré toujours la réflexion théorique comme une sorte de nuisance. Et vous savez très bien, comme moi, que dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie politique, les idées sont très importantes, en Roumanie, en Europe, en Amérique, et beaucoup des grands politiciens contemporains sont influencés par une sorte de pensée politique. Même les radicaux qui dominent la vie politique européenne, ont une sorte de vision sur le monde. Les politiques roumains semblent considérer qu'une vision du monde, c'est plus nécessaire. Mais apparemment, un homme comme Călin Georgescu a séduit beaucoup de Roumains parce qu'il a présenté une sorte de vision folle du monde, mais quand même une vision. Donc, le manque de vision alimente ce désir de s'appuyer sur des visions utopiques. Le messianisme, l'utopisme, le désir utopique, ce sont des choses très bien connues.
Oui, je rappelle Călin Georgescu qui était leader populiste déchu de la dernière élection présidentielle, très actif. Oui, oui. Mais tout de même, en termes de politique économique, on peut dire que le gouvernement actuel mène une politique économique libérale.
Ça dépend. Moi, je suis un libéral et je considère que la supra-taxation des gens n'est pas la solution. Je crois que pour un vrai libéral, il y a deux choses qui sont vraiment très importantes. La liberté économique et la richesse des individus, la prospérité. Et le corollaire, c'est l'épanouissement de la propriété privée. Je crois que sans la propriété privée, l'homme n'a pas vraiment de liberté. Donc la propriété privée, je ne parle pas des grandes corporations, mais de la propriété privée tout court. La propriété privée, c'est le fondement de la liberté politique. Et pour moi, aucune attente à la propriété privée, c'est une attente à la liberté individuelle.
Maintenant, vous êtes professeur universitaire, vous n'allez pas me contredire en disant que l'éducation est évidemment un domaine prioritaire.
Prioritaire pour quelqu'un, pas prioritaire pour notre gouvernement.
Oui, mais de façon générale, vous êtes d'accord pour...
Oui, je crois que, en tant que libéral conservateur, je considère que l'homme a deux piliers pour s'appuyer, l'éducation et la propriété. Et le corollaire, c'est la liberté. Parce que si tu es libre et éduqué, et si tu es propriétaire, tu as la possibilité de faire en quelque sorte échec à l'État.
Et qu'est-ce que vous dites de la santé? Vous savez comme moi que la Roumanie ne dépense que 6% de son PIB dans la santé, alors que la moyenne européenne est à 11%.
La santé, c'est une question la plus douloureuse et tragique de la Roumanie, car en Roumanie, on abandonne les jeunes et les vieillards. Et c'est une sorte de société qui se conduit elle-même en sorte de société darwinienne. La survivance est possible seulement si on est fort. Les gens faibles sont abandonnés et je crois que ça, c'est une forme de trahir une valeur essentielle de notre société, la dignité humaine. En tant que libéral conservateur, je crois que la dignité humaine a une position essentielle dans notre vision du
et
monde.
Et donc ça passe par un système de santé fort, public, ouvert à tous. Je crois que
dans l'avenir, on doit encourager les gens à investir eux-mêmes dans leur propre santé. Parce que le système des pensions publiques et le système de santé publique ne marche pas. Et on doit faire en quelque sorte que la richesse s'agrandisse et que les gens ont possibilité de se protéger eux-mêmes dans des réseaux de santé privés et dans des pensions privées. C'est ça.
Ça sera une partie seulement des gens qui sont
bien
démunis.
Sûr, mais les je crois autres... que le défi, c'est de faire en quelque sorte qu'un plus grand nombre de citoyens soient indépendants. C'est à mon avis la seule solution pour éviter un désastre.
Tout en maintenant un système public.
Tout en maintenant un système public, mais
démunis.
Un système public, comment le maintenir? On sait très bien que ce système de pension publique roumain, le système, l'État-providence roumain, est en train de s'écrouler. Parce qu'il est incapable de se maintenir. Donc, soit on reconsidère l'État-providence, soit on l'assiste avec des solutions privées. Mais le gardant comme il était, ce n'est pas une solution à ma vie.
Il n'empêche que, pour revenir à ce pourcentage de 6%, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'orientation politique. Il pourrait être augmenté. 6%, c'est quand même la moitié de la moyenne européenne.
Ce sont des questions qu'on doit poser au ministre de la Santé publique et au Premier ministre aussi. Le fait que les gens meurent dans les hôpitaux roumains, c'est une forme de témoignage sur notre incapacité de faire en quelque sorte que les gens soient protégés.
Alors, comme vous le dites, nous sommes en Roumanie, en état de crise économique, on peut dire ça.
Oui, nous avons à gérer un déficit budgétaire. Ce n'est pas vraiment, à mon avis, une crise profonde, c'est un déficit budgétaire. Le plus grand danger pour nous, c'est la pauvreté, le manque de consommation et l'incapacité d'un projet pour l'avenir. C'est ça.
Alors avec cette inflation, ces politiques d'austérité...
Oui, l'inflation, c'est le manque de confiance dans la monnaie nationale. Et l'inflation, c'est une sorte de marée qui fait les gens perdre confiance dans leur propre avenir.
Et de façon paradoxale, le parti AOUR, populiste d'extrême droite, on va l'appeler comme ça, stagne, même dans les derniers sondages, aurait tendance à perdre un petit peu de son poids politique. Comment vous l'expliquez?
Je ne suis pas sociologue, c'est très compliqué. Je crois que les gens ne sont pas très coopératifs avec l'Institut de sondage public. Et les dernières élections ont prouvé qu'il y a un sort de mécontentement public. Et les partis politiques mainstream doivent comprendre et accepter ce mécontentement, car s'ils ne l'acceptent pas, il y aura des conséquences. Et la survie politique de M. Calin Georgescu est un signe très clair de ce mécontentement.
Mais vous pensez que le parti AOUR a véritablement un avenir, ou ce sera autrement que ce mécontentement s'exprimera?
Ça dépend. Le parti AOUR est enraciné dans la vie politique roumaine. C'est un parti qui s'est nourri d'une partie de notre opinion publique. Un parti qui a jouait sur une carte qui était abandonnée par des autres partis politiques, comme le patriotisme ou l'identité. Je crois que dans beaucoup de pays européens, les partis politiques conservatrices ont abandonné des thèmes très importants. Et les thèmes abandonnés ont été confisqués par les radicaux. Et je crois que la seule solution pour affronter le radicalisme politique, c'est de faire de nouveau de ce thème nos thèmes. Comme le patriotisme, l'identité, la famille, la tradition, ce sont des thèmes très importants qui sont très chers aux Roumains. Et je crois qu'il faut accepter la sensibilité de notre peuple comme il est. Mais il faut prendre en considération une question très claire. Le radicalisme n'offre pas de solution. Donc, pour combattre le radicalisme, il doit y avoir une foi politique et une sorte de pragmatisme. Pragmatisme prudent qui ne bouscule pas les gens. Insulter les gens n'est pas une solution. Convaincre les gens, c'est la solution. Les accepter en vue de les améliorer par l'éducation. Mais l'éducation doit être acceptée par les gens. Les parents doivent comprendre que l'avenir pour leurs enfants, c'est l'éducation. Et l'éducation doit être enracinée dans la société. L'éducation n'est pas une forme d'endoctrination, une forme de propagande. C'est une forme de préparer les gens pour affronter la vie et les doter avec des valeurs morales. C'est ça la vraie éducation humaniste, comme on disait autrefois.
Alors, si vous le voulez bien, Ioan Stanomir, revenons au rôle du président en Roumanie. Oui. J'aimerais simplement une petite précision de votre part. Vous me direz si je me trompe, mais la Roumanie est bien un régime semi-présidentiel, on peut dire ça?
On peut dire, certains spécialistes le qualifient comme ça, d'autres l'examinent en tant qu'un régime parlementaire avec un président élu par suffrage universel, mais il y a un sort de consensus qu'il y a un rôle à jouer par le président.
Mais je pense que c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que notamment depuis l'Ouest, on a tendance à faire un amalgame parfois avec des pays comme la France où le président de la République a un pouvoir
le président autre français, que celui de la... C'est un président qui est le chef du cabinet et qui nomme directement le premier ministre sans avoir besoin de l'appui du Parlement. Ce n'est pas notre cas.
Ouais.
Donc c'est une comparaison trompeuse.
Tout à fait. Il a certains pouvoirs. C'est lui qui dirige le Conseil suprême de la défense, notamment. Mais quelque part, pour revenir à Nikou Chordan, quand vous disiez qu'il n'était pas fort politiquement, c'est parce qu'il n'avait pas de parti derrière lui. Mais reprenant votre affirmation, est-ce qu'il est dans l'absolu fort politiquement, d'après vous?
Un président fort est un président qui influence la vie politique et qui a la possibilité de faire les partis politiques accepter son agenda. Je crois que ce n'est pas le cas du président Nikou Chordan.
Il pourrait en avoir les moyens? Enfin, il en a les moyens?
Je crois que c'est une question très complexe et le mieux placé pour répondre à ces questions-là, c'est le président lui-même. Car le président est en dialogue, en conversation avec la nation. Un président muet n'est pas un président. Nous avons eu un président muet pour une décennie, pendant une décade, le président Yohannis. Et le résultat de cette incapacité de parler avec notre nation a été prouvé par la naissance du mythe de Colin Georgescu. Donc je crois que, même si le président n'est pas très fort, il est obligé en quelque sorte de parler avec la nation, car le manque de...
Mais il ne le fait pas suffisamment aujourd'hui.
Je ne suis pas dans la mesure de donner des conseils au président de la République.
Pour revenir à ce rôle du président, j'aimerais qu'on passe maintenant aux relations entre Bucarest, Bruxelles et Washington.
Oui, oui.
On sent que... À ce niveau-là, le cœur de la Roumanie, on a l'impression qu'il balance. Ils essaient toujours, le gouvernement, de gérer la chèvre et le chou, comme on dit en français. Est-ce qu'on peut comprendre cette position? Je rappelle que le pays est d'abord entré dans l'OTAN en 2004, puis dans l'Union européenne en 2007. Mais quelque part, est-ce qu'il ne serait pas temps aussi de choisir son camp ou pas?
Je crois que le président a eu raison de faire les choix qu'il a fait récemment. Notamment en acceptant le désir américain d'ouvrir la base de Mikhail Kogolnichano aux transports aériens vers l'Iran. Je crois que le président a bien joué, car la Roumanie n'a pas le choix. La Roumanie doit rester, à mon avis, fidèle à l'alliance militaire et politique avec les États-Unis. En dépit de tous les dérapages verbaux du président américain, on doit l'accepter comme il est. Ce n'est pas au président roumain ou aux Roumains de critiquer le président américain pour une simple raison. Pour nous, le seul moyen de s'assurer que l'indépendance de notre pays restera pour le futur, c'est l'engagement américain tout court. Donc pour nous, la politique étrangère est dominé par une sorte de principe non négociable. On peut le critiquer, mais je crois qu'on ne peut pas le remplacer pour le moment.
Vous ne pensez pas que l'Europe, à moyen terme, aurait la capacité d'aider la Roumanie, également, militairement? Comme le président français l'a proposé, d'ailleurs.
Je voudrais vous donner un exemple, qui est d'ailleurs très douloureux pour moi. Le Royaume-Uni était incapable de protéger ses bases militaires en Chypre. Il n'avait pas les navires nécessaires.
Ça vous fait allusion, il n'y a pas très longtemps
Je crois que si on parle d'une architecture de la défense, on doit se concentrer sur les moyens, sur la puissance militaire et économique. Et voir exactement comment dissoudre notre adversaire. C'est ça la politique étrangère réaliste. Et les Américains ont la puissance de faire échec à notre adversaire qui est la Fédération de Russie. L'Europe est admirable, mais elle a choisi depuis des décennies de s'appuyer sur une politique suicidaire de désarmement. Et je crois que se désarmer pendant que l'autre se réarme, c'est une erreur tragique.
Elle se réarme aujourd'hui.
Elle se réarme, mais ça reste à voir. Pour moi, je ne cacherai jamais cette option personnelle. Pour moi, la seule puissance militaire vraiment globale de l'Occident, ce sont les États-Unis. En dépit de leurs défauts. Je ne suis pas un admirateur qui était aveuglé par les Américains. Je suis un allié critique des Américains. Et je dois vous avouer qu'une lecture des plus importantes qui ont façonné ma lecture des relations internationales, ce fut celle de Raymond Aron. Raymond Aron, c'est un Français, comme vous le savez très bien, un grand Français, j'ajouterai, qui a écrit beaucoup sur l'Amérique.
Un libéral comme vous?
Un libéral. Je ne suis pas en mesure de me comparer avec Raymond Aron, mais quand même, Raymond Aron est très important pour nous, car la politique aronienne, c'est une politique du réalisme modéré. Il y a des moments en vie où on doit choisir. Et ce n'est pas à choisir entre le bien et le mal. C'est à choisir entre deux. Et les alliances entre les nations se forgent sur des intérêts et sur des valeurs. Et je crois que c'est pour la Roumanie, pour la Finlande, pour la Pologne très important de rappeler aux Américains que nous sommes leurs alliés et qu'on va leur aider étant donné notre possibilité. j'admirais beaucoup le ton et la pensée du président finlandais dans ces derniers jours. Il est toujours très calme, il est toujours très poli, et je crois que ce calme et cette politesse vient l'emporter même sur Donald Trump.
À Bruxelles, il y a de plus en plus l'intention, précisément face au soubresaut de Donald Trump, qui a, fait que la Roumanie n'est plus exemptée de visa, si je me trompe.
Oui, bien sûr.
Ça n'a pas été très sympathique, on va dire, vis-à-vis de Bucarest.
Je ne jugerai jamais que Donald Trump est toujours sympathique. Donald Trump est un président très complexe, et les Américains sont des gens très complexes. Il faut bien les connaître et il faut bien les comprendre. Sans la compréhension, c'est impossible de penser.
Alors ne faudrait-il pas miser davantage sur une Europe à moyen terme, encore une fois, ou plutôt à long terme, qui soit beaucoup plus stable et sur laquelle, en termes de défense, en termes économiques, en termes politiques, tous les pays de l'Union européenne puissent se baser et non pas être dépendants des aléas d'un président américain.
Pour avoir ce genre d'assurance, il faut avoir une forme de dissuasion nucléaire très forte et il faut avoir une forme de stabilité militaire. Je ne suis pas capable de faire des prévisions politiques. Mais quand même, je crois que pour le moment, ça serait folle pour les Roumains d'embrasser le même avis que le premier espagnol, par exemple. Je crois que Pedro Sanchez a fait une sorte de choix politique qui va lui coûter très cher, car l'Espagne s'est éloignée dramatiquement des Américains, et l'Espagne, quand même, a un peu besoin des Américains.
Si vous voulez bien, nous allons terminer sur la guerre en Ukraine. Alors évidemment, très difficile de savoir ce qui va se passer, mais toutefois... Quelle est votre intuition? Comment ce conflit pourrait-il se terminer?
Il y a deux guerres qui sont parties de la même guerre, en Moyen-Orient et en Ukraine. On doit l'accepter, car si on ne l'accepte pas, on risque de ne comprendre rien de cette situation. L'Iran a été l'allié, et il est l'allié de la Russie. L'Iran a fourni des drones qui ont frappé même la Roumanie.
Enfin, qui sont tombés sur la Roumanie.
Oui. L'Iran a été armé par les Coréens du Nord et par la République populaire de Chine. Les missiles développés par les Iraniens et qui peuvent frapper l'Europe elle-même sont développés dans un cadre de connaissances technologiques d'origine soit chinoise, soit russe. Donc, l'affaiblissement de l'Iran, c'est une forme de garantir à l'Ukraine la possibilité de se survivre. Et le premier argument est celle qui a été offerte par le président ukrainien Zelensky, qui a voyagé dans les pays du Golfe et il a parlé avec les Émirats, les Qatariens, et les Saoudites, pour le convaincre que leur savoir-faire militaire est nécessaire. Et je crois que même les Américains, même s'ils ne pas l'admettent officiellement, ont beaucoup appris en regardant de très près ce conflit dans l'Ukraine. Et je crois que si le régime islamique, ce régime théocrato-terroriste sera affaibli mortellement.
D'Iran.
Oui. Je crois que ça sera une chance pour l'Ukraine aussi. Car il y a des nations aujourd'hui qui sont liées par un désir commun de détruire nos nations. La Russie, la Chine, la Corée du Nord et de l'Iran. L'Iran n'est pas l'ami de notre nation. Il n'a jamais été. Et éliminer ce régime-là, est lié à la victoire en Ukraine. Car un régime iranien puissant et fort sera toujours l'allié de la Russie.
Donc vous pensez véritablement qu'il y a comme un groupe illibéral, ou plutôt un groupe de leaders et de nations, Chine incluse, qui veut véritablement la destruction du modèle occidental?
Je suis avec beaucoup d'attention les analyses de l'Institut pour l'étude de la guerre. Et le président de cet institut, c'est un général américain, maintenant à la retraite, Jack Keane, qui a toujours souligné l'existence de cet axe. Il a toujours souligné la nécessité de ne pas l'ignorer. Et il a toujours suggéré qu'un retrait prématuré de l'Iran maintenant serait une catastrophe qui résulterait dans la possibilité pour cet axe de
se renforcer,
de rester très agressif. Je crois que toutes les analyses lucides de nature militaire convergent dans cette direction-là. Il y a une alliance entre la Russie et la Chine. Il y a une alliance entre la Chine et la Corée du Nord. Et il y a une alliance entre la Chine, la Russie et l'Iran. Et cette alliance a influencé de façon décisive le conflit en Ukraine. La Russie était en mesure de lutter 4 ans avec le soutien de la Chine. Donc, la guerre de la Russie, c'est aussi une guerre chinoise. Et l'Europe doit comprendre qu'il n'y a pas de place pour faire des alliances avec ces États-là.
Chine, cette fois-ci, excluse. Est-ce que vous ne pensez pas que la Russie, tout comme l'Iran, que les sociétés civiles respectives de ces deux pays ont, à moyen terme, encore une fois, la capacité d'avoir des leaders démocrates?
C'est très compliqué. En Iran, nous avons vu comment le régime a exterminé ses propres citoyens. Et je crois que ceux qui lamentent la mort de Khamenei sont des monstres, comme le leader qui a été éliminé par les Américains et par les Israéliens. Je crois que les Israéliens et les Américains ont fait une très grande affaire pour l'humanité en éliminant ce monstre qui était en charge de l'Iran depuis beaucoup de décennies. Donc, je crois qu'en Iran, il y a une chance pour la dignité humaine de vaincre. La Russie, c'est un peu compliqué, car la Russie est hantée par ce désir de rester un grand empire. Je suis un grand et dévoué admirateur de la culture russe, mais, en même temps, un ennemi implacable de l'État russe, et surtout de l'impérialisme russe. Donc, en Iran et en Russie, je parie surtout sur la culture, sur la dignité, sur la liberté. Je considère, par exemple, que la tradition du roi perse est plus importante que la tradition de ce monstre autocratique et que les grands poètes perses vont rester, tandis que ces monstres-là seront oubliés. Et je crois aussi que Tchekhov ou Pushkin, même si Pushkin était très nationaliste, on doit l'ajouter, sont plus importants que Poutine. Mais en même temps, on doit le souligner très clairement, le peuple russe soutient cette guerre, car le peuple russe est très attaché à l'idée de l'Empire russe.
Dans sa majorité.
Je le crois. Et je crois que les intellectuels russes d'auparavant, qui n'ont pas choisi ce camp, ont été marginalisés. La séduction impériale était très forte en Russie, car la Russie s'est bâtie elle-même comme un empire. Et je crois que vous avez dans la culture française un grand intellectuel comme Alain Bazançon, qui écrit beaucoup sur ces choses-là. Raymond Aron écrit aussi lui-même beaucoup sur le totalitarisme soviétique. Le marquis de Custine a écrit un livre essentiel pour la Russie du XIXe siècle. C'est une forme de continuité historique. Dans le cas de l'Iran, c'est beaucoup plus complexe. Car l'impérialisme du Shah, c'était essentiellement un impérialisme laïque. Maintenant, c'est une forme de folie nourrie par un désir suicidaire de démolir le monde entier. Je crois que la Russie sera obligée, à un moment donné, de se réexaminer collectivement et de s'interroger sur sa place dans la communauté des nations. Il y a une grande culture russe qu'on doit apprécier. La nier, c'est une sorte de folie. Mais, en même temps, ignorer l'impérialisme russe, c'est une sorte de folie aussi dangereuse.
Mais est-ce que les intérêts économiques, quelque part, ne vont pas arranger tout ça? Je pense notamment aux accords d'Abraham qui ont vu Israël commercer avec des pays arabes comme le Maroc, par exemple.
Il y a des différences très profondes. Le Maroc ou les Émirats arabes unis sont des monarchies autoritaires, mais pas des monarchies théocratiques. Ce sont des États qui ont connu et qui ont accepté la modernité. Le Maroc, par exemple, s'est modernisé beaucoup, même sur un roi très autoritaire comme Hassan II. Et si on fait une comparaison entre le Maroc et l'Algérie, vous comprendrez très bien que le Maroc, c'est un allié de l'Occident, tandis que l'Algérie n'est pas là. Donc, les accords conclus entre les Israéliens et les États de Bahreïn ou des Émirats sont des accords naturels, étant donné le fait qu'ils partagent la même région et qu'ils ont le même ennemi. Et on pourrait envisager peut-être un futur dans lequel un Iran sans la folie théocratique pourrait rejoindre cet accord. Donc, en ce qui concerne les intérêts économiques de la Russie, ça reste à voir, la Russie doit accepter qu'il n'est pas en mesure d'annexer l'Ukraine. C'est une question de conviction. Tant qu'il sera convaincu qu'elle peut vaincre sur le terrain militaire, la guerre continuera. La conviction dicte la conduite militaire et politique de Russie.
Monsieur Stanomir, je suis ravi d'avoir été avec vous une nouvelle fois pour l'émission Le Micro du Soir. Merci pour vos propos.
Je vous remercie.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un bon week-end pascal catholique avant l'orthodoxe le week-end suivant. Je vous remercie. Week-end placoute. Au revoir.